Vous êtes bien sur Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. La COP 27 en Égypte et la conférence sur le climat à Sharm el-Cheikh jusqu'au 16 novembre prochain. Sur les enjeux de cette réunion internationale, nous écouterons François Gémen, membre du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Son dernier ouvrage, L'écologie n'est pas un consensus, édité par Fayard. La fin ce dimanche de la visite officielle du pape François à Bahreïn. Le dialogue islamo-chrétien était au cœur de ce déplacement. Nous y reviendrons avec Jean-François Bourg, directeur du service national pour les relations avec les musulmans au sein de la conférence des évêques de France. De nouvelles manifestations ont eu lieu dans des universités en Iran et des régions kurdes du nord-ouest du pays. L'intensité du mouvement de contestation contre le régime ne faiblit pas malgré la répression. La guerre en Syrie, 10 personnes dont 3 enfants ont été tuées, des dizaines blessées hier dans le nord-ouest du pays, dans la province d'Idleb. C'est un signal très positif, on ne peut pas accepter dans la vie politique française qu'un énergumène puisse venir débiter son racisme ouvertement. Réaction du président de SOS Racisme après que le député RN Grégoire de Fournasse a été exclu de l'Assemblée pendant 15 jours pour sa phrase qu'il retourne en Afrique. Les salaires des accompagnants d'élèves en situation de handicap vont augmenter de 10% en septembre prochain. Nous écouterons le coordinateur national du collectif Handicap, Stéphane Lenoir. La COP 27 s'est ouverte en Égypte. La conférence sur le climat se déroule à Sharm el-Cheikh. Le sommet des chefs d'État se tient ce lundi et ce mardi. Les pays en développement, fortement représentés, demandent un soutien financier beaucoup plus important aux pays développés. Sur les enjeux de cette conférence internationale, François Gémen, membre du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, son dernier ouvrage, L'écologie n'est pas un consensus, édité par Fayard. François Gémen.
L'enjeu est double, ou plutôt triple. Le premier, c'est évidemment d'essayer de rapprocher les points de vue des pays du Sud des points de vue des pays industrialisés. Au cours des dernières années, le fossé entre le Sud et le Nord s'est considérablement accru et donc les pays du Sud reprochent aux pays du Nord de ne pas tenir leurs engagements à la fois en matière de réduction des émissions mais aussi en matière de financement. Et donc le premier enjeu, ça va être de fournir ces financements aux pays du Sud si on veut quelque part amoindrir le ressentiment qui croît d'année en année. Le deuxième enjeu, c'est de revoir la hausse les engagements de réduction des émissions et surtout de respecter ces engagements. On est aujourd'hui dans une logique de coopération qui repose exclusivement sur les engagements volontaires des différents États et malheureusement, ces engagements, pour la plupart, ne sont pas tenus. Et donc, ça va être le deuxième enjeu. Et puis, le troisième enjeu, ça va être malgré tout de garder tout le monde autour de la table. On sait aujourd'hui que les tensions internationales sont nombreuses entre la guerre en Ukraine ou la Chine qui a suspendu son partenariat stratégique sur le climat avec les États-Unis. Et donc, le scénario qui serait vraiment un scénario catastrophe serait un scénario de scission, de dissension dans la coopération internationale. Est-ce que la diplomatie égyptienne va parvenir à sanctuariser ces négociations, à éviter que les tensions internationales ne s'invitent dans la négociation? Ça va être une des grandes questions de cette COP 27. J'ai envie de dire que si on s'en tire sans aucun recul majeur, ça sera déjà en soi une satisfaction.
Et vous évoquez justement les enjeux pour ces pays du Sud, ces pays qui sont les principales victimes du dérèglement climatique aujourd'hui. Cette COP 27 se déroule en Afrique, c'est un élément important et vous craignez pour la première fois une fracture sur le thème du climat, du dérèglement climatique entre le Nord et le Sud.
Il est certain, pas seulement entre le Nord et le Sud, mais je dirais non seulement entre le Nord et le Sud, mais aussi entre les pays industrialisés, les démocraties libérales et la Russie et ses alliés. Il faut se rendre compte que toutes les décisions dans ces négociations sont prises au consensus. Ça veut dire qu'il faut l'accord de toutes les parties. Et donc la Russie dispose en quelque sorte d'une véritable arme atomique parce qu'elle peut à elle seule saboter les négociations. Si elle décide, par exemple, de se retirer de l'accord de Paris, elle et ses alliés, il est certain que le château de cartes de la coopération internationale s'effondre.
Il y a aujourd'hui un sentiment de colère généré par cette situation. Cette conférence sur le climat peut justement apporter une réponse à cela?
Oui, elle peut en même temps apporter une réponse à ça, autant qu'elle peut générer encore davantage de frustration et de colère. Malheureusement, les COP telles qu'elles sont conçues aujourd'hui sont un peu des machines à fabriquer de la frustration et de la déception. notamment parce que toutes les décisions sont prises au consensus, ce qui est une arme terrible donnée aux pays les moins ambitieux. Si vous êtes ambitieux sur le climat, vous ne pourrez jamais être satisfait du résultat d'une COP, pour la bonne et simple raison que les décisions représentent forcément le plus petit dénominateur commun. Et puis, il faut se rendre compte aussi qu'une COP, c'est un peu comme une assemblée générale des copropriétaires. C'est-à-dire que si les copropriétaires ne veulent rien décider, l'assemblée générale ne peut pas le faire à leur place. Et parfois, nous attendons trop des COP. Nous attendons des COP qu'elles sauvent le climat. Mais même la COP la plus réussie ne pourra pas sauver le climat si les gouvernements arrivent les mains vides.
François Gémen, membre du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, son dernier ouvrage, L'écologie n'est pas un consensus, édité par Fayard. La guerre en Syrie, 10 personnes dont 3 enfants ont été tuées, des dizaines blessées. Ce dimanche, dans le nord-ouest du pays, dans la province d'Idleb, ces personnes ont été victimes des bombardements du régime de Damas. Plus de 30 roquettes sont tombées sur plusieurs zones à l'ouest de la ville d'Idleb. De nouvelles manifestations ont eu lieu dans des universités en Iran et des régions kurdes du nord-ouest du pays. L'intensité du mouvement de contestation contre le régime ne faiblit pas malgré la répression. Les manifestations déclenchées par la mort de Mahsa Amini le 16 septembre après son arrestation par la police des mœurs sont la plus importante vague de contestation dans le pays depuis la révolution islamique de 1979. Les universités sont devenues l'un des principaux foyers de la contestation. Près de 200 personnes ont été tuées dans la répression de ce mouvement. La fin ce dimanche de la visite officielle du pape François à Bahreïn. Le souverain pontife a notamment évoqué la situation au Liban en invitant les dirigeants du pays à laisser de côté leurs intérêts personnels. Une visite de 4 jours consacrée en particulier au dialogue avec l'islam. Cela a été un voyage de la rencontre dans un pays ouvert à tous, a confié François, insistant à nouveau sur l'importance du dialogue entre les différentes cultures et confessions. Sur cette visite, entretien avec le père Jean-François Bourg, directeur du service national pour les relations avec les musulmans au sein de la Conférence des évêques de France.
C'est un voyage qui, je crois, s'inscrit dans une continuité. Le pape François, on le sait, depuis le début de son pontificat, a déjà effectué un certain nombre de voyages en direction d'autorités musulmanes dans différents pays. Il y a là une continuité, donc effectivement, c'est historique pour une part, mais en même temps, ce qui est peut-être plus historique encore, c'est la ténacité, en fait, du pape François. On peut constater notamment la relation très étroite qu'il entretient avec le grand imam d'Al-Azhar, le cher Ahmed El-Tayeb, avec qui il a donc mené une réflexion qui a déjà conduit non seulement à des visites d'Ahmed El-Tayeb au Vatican, mais aussi à une visite du pape en Égypte en 2017, suivie d'un grand congrès interreligieux islamo-chrétien à Abu Dhabi en 2019, une grande déclaration sur la fraternité humaine. Et là, en fait, en réalité, on poursuit la réflexion parce que le thème de ce forum de dialogue à Bahreïn, c'était la relation Orient-Occident. Et c'était un point qui était à l'ordre du jour déjà de la rencontre d'Abu Dhabi, mais qui était surtout mentionné comme un point à travailler en 2019. Et donc, on s'aperçoit qu'à Bahreïn, les différents interlocuteurs se sont retrouvés notamment pour approfondir ce point-là aussi.
Le pape François qui a appelé à l'unité face à la logique des blocs opposés entre l'Est et l'Ouest, ça c'était un élément particulièrement important.
Oui, je pense que c'est aussi un pape inquiet, qui sent que d'une certaine façon, la coopération planétaire, on va dire, on dit que le multilatéralisme est en panne, lui-même le dit souvent, et il sent que la coopération planétaire, justement, est au moins au ralenti, et ça l'inquiète beaucoup. Je pense qu'il en appelle à un vrai changement de regard, mais il n'est pas le seul, parce que je lisais les déclarations très fortes aussi du cher Ahmed El-Tayeb, lui aussi appelle à un changement de regard. Donc les deux hommes, au moins, sont en train de nous appeler tous, je dirais, à porter un nouveau regard sur la culture des autres. Voilà, et ne pas se laisser aller à un certain mépris. Vous avez peut-être remarqué cette phrase de Josep Borrell pour l'Union européenne, le 13 octobre dernier. Il n'a pas hésité à dire « L'Union européenne, c'est un jardin et le reste du monde, c'est d'une certaine façon la jungle ». Ça fait partie, en fait, de ces tristes appréciations, en fait, qu'on porte les uns sur les autres. Et à Bahreïn, cette déclaration de Josep Borrell a justement été rappelée. Parce qu'elle a fait, en fait, elle a blessé profondément une partie des pays de la planète, quoi.
Et vous constatez que le pape crée des ponts entre l'Orient et l'Occident à travers ses différents déplacements et notamment à travers ce déplacement à Bahreïn.
J'espère que son action peut être bénéfique dans ce sens. Je l'espère, hein, je ne sais pas si c'est naïf de le croire, mais en tous les cas, ce que je constate, c'est qu'il développe lui-même une attitude fraternelle, que ce soit à l'égard des représentants musulmans, que ce soit à l'égard des peuples, justement, parce qu'il, comme au Kazakhstan, hein, il met en valeur ce qu'il trouve de... Parce qu'il il se fait, je pense, il s'informe sur la culture des pays où il se rend. Et donc, comme au Kazakhstan, au Bahreïn, il a mentionné des dispositions, des lois fondamentales du Bahreïn, et de façon à mettre en valeur ce qui lui semble très positif, et qui est au service de la dignité humaine dans les lois fondamentales et dans les cultures même de ces pays. Et Bahreïn aussi, donc tout en invitant à faire des pas, d'aller plus loin, par exemple en abolissant même la peine de mort, hein, il est allé jusqu'à appeler à ça, il met en tous les cas en valeur les dispositions qui peuvent mettre ces peuples et ces pays en progrès, en fait, en évolution. Il a une attitude fraternelle, il vient pas donner la leçon, mais je pense qu'il valorise aussi les peuples où il se rend, et puis il valorise aussi les autres églises chrétiennes, hein, puisque comme on a vu, il rencontre les autres responsables chrétiens là où il se rend.
Vous êtes, Père Jean-François Bourg, le directeur du service national pour les relations avec les musulmans à la conférence des évêques de France. Vous portez quel regard sur l'évolution du dialogue interreligieux et notamment du dialogue islamo-chrétien aujourd'hui en France et au-delà des frontières françaises?
Moi, je dirais que nous avons une chance, c'est que ce dialogue islamo-chrétien, au jour où nous parlons maintenant, a déjà une certaine histoire. Il commence à y avoir une certaine habitude de se rencontrer. Je voudrais juste mentionner au passage que viennent de s'ouvrir ce qu'on appelle la semaine des rencontres islamo-chrétiennes, hein, sous l'égide d'un groupe qui ne dépend pas du tout de l'Église de France, qui est autonome. C'est une association qui s'appelle le GAIC, le groupe d'amitié islamo-chrétienne, et qui promeut dans toute la France, là, au mois de novembre, justement des rencontres diverses. Ce sont parfois des groupes de parole, ce sont parfois des festivals, enfin différentes activités de rencontres entre chrétiens et musulmans. Je crois que c'est parce que nous avons une histoire que ce dialogue, aujourd'hui, peut continuer à nous aider à faire face aussi, aujourd'hui, aux tensions qui existent dans la société française, bien sûr, mais aussi dans la société européenne, parce que nous sortons d'une période très 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 compliquée, je dirais, avec des attentats terroristes qui ont fait souffrir beaucoup beaucoup de gens et qui sont difficiles à digérer, en fait. Il y a eu une anxiété extrêmement forte dans nos sociétés, en Europe déjà, mais la tension, elle est largement au-delà de l'Europe. Cette radicalisation, qui n'est pas seulement musulmane, hein, mais en tout cas cette radicalisation, notamment du terrorisme avec Daesh ou Al-Qaïda, a fait souffrir aussi beaucoup de musulmans à travers le monde, énormément de musulmans. Et ce que je crois important de souligner, c'est qu'il y a depuis au moins 20 ans maintenant, les réunions et les congrès de dialogue interreligieux mondiaux, aussi internationaux, se sont multipliés. Et les initiatives même de responsables musulmans se sont intensifiées. Par exemple, alors que à Bahreïn, donc le pape était réuni avec le grand imam d'Al-Azhar et le conseil des sages musulmans, et puis d'autres invités, il y avait en même temps à Bali un congrès international interreligieux sous l'égide de la plus grosse fédération d'ouléma indonésien, la Nahdlatul Ulama, avec la Ligue islamique mondiale présidée par le cheikh Mohamed El-Aïssa. Et en fait, à Bali, donc en amont du G20, un congrès interreligieux s'est tenu presque en même temps qu'à Bahreïn pour essayer déjà, en amont du G20, de préparer quelques idées qui pourraient bien montrer que les religions veulent contribuer aux évolutions positives de la planète, et notamment à propos de la crise climatique. Et en fait, on a actuellement, depuis ces dernières années, comme le pape François était au Kazakhstan, qui avait organisé le 7e congrès interreligieux depuis 2003 sur son territoire, il y a, je crois, une sorte d'intensification des plateformes de dialogue, enfin une multiplication des plateformes de dialogue. Les gens apprennent à se connaître, ils apprennent à se dire petit à petit des choses qui vont au-delà, je dirais, de la courtoisie, des grandes déclarations de principe, je pense qu'ils essayent de se dire aussi de plus en plus des choses qui fâchent parfois ou qui sont plus délicates à dire.
Le père Jean-François Bourg, directeur du service national pour les relations avec les musulmans au sein de la conférence des évêques de France. Qu'il retourne en Afrique, les propos d'un député RN lancé jeudi soir dernier à l'Assemblée nationale lors de l'intervention du député LFI Carlos Martins Bilongo ont suscité un tollé au sein de la classe politique. Le député posait une question au gouvernement sur l'immigration clandestine. Les députés ont voté vendredi dernier l'exclusion de 15 jours de l'élu RN, Grégoire de Fournas, soit la sanction la plus sévère. Suite à cette sanction, le président de SOS Racisme évoque un signal positif. On ne peut pas accepter dans la vie politique française qu'un énergumène puisse venir débiter son racisme ouvertement, dit-il au micro de Radio Orient. Les salaires des accompagnants d'élèves en situation de handicap vont augmenter de 10% en septembre prochain, une annonce du gouvernement. Les 132 000 AESH de l'éducation nationale perçoivent en moyenne un salaire de 800 euros par mois, une rémunération qui se situe sous le seuil de pauvreté. Suite à cette annonce du gouvernement, le coordinateur national du collectif handicap, Stéphane Lenoir.
Le collectif peut se réjouir de l'annonce de cette augmentation des salaires des AESH, mais effectivement, on risque de ne pas sortir forcément de la précarité des AESH avec l'augmentation des 10%. Les conditions de travail, on les connaît, elles peuvent être difficiles, c'est souvent du temps partiel. Les AESH sont malheureusement pas assez formés ou trop tardivement. Donc l'augmentation de salaire est évidemment la bienvenue, mais il y a d'autres conditions très certainement à remplir pour qu'ils puissent remplir leurs fonctions pleinement.
Et quelles sont ces conditions aujourd'hui ?
C'est déjà de la formation. Il est évident que lorsque vous avez un professionnel qui se retrouve devant un élève avec des difficultés et dont il ne comprend pas le fonctionnement, l'AESH ne peut pas remplir pleinement sa fonction. Donc il faut absolument que les AESH, mais j'ai même presque envie de dire l'ensemble du corps enseignant, soit formé aux difficultés des élèves qu'ils ont dans leur classe. Et ensuite, il y a effectivement la question aussi du temps partiel, qui amène à avoir des salaires à la fin du mois qui sont franchement minimes, hein, en tout cas qui ne permettent pas de vivre correctement. Donc il faut trouver une réponse aussi à ça. Il faut permettre aux AESH, en tout cas qu'ils le souhaitent, d'avoir un temps plein.
Quelles sont leurs missions, précisément ?
Les missions des AESH, c'est effectivement d'accompagner l'élève. Alors ça va dépendre beaucoup des situations de handicap des élèves, mais ça peut par exemple être très concrètement simplement reformuler une consigne. Ça peut être accompagner l'enfant, par exemple, dans la relation aussi avec les autres camarades. Ce sont des missions d'accompagnement.
Le coordinateur national du collectif handicap, Stéphane Lenoir. Les étudiants en situation de précarité pourront prétendre à un repas à 1 euro jusqu'à Noël, même s'ils ne sont pas boursiers. Une annonce de la ministre de l'Enseignement supérieur, Sylvie Retailleau. Après Noël, le dossier des étudiants sera étudié par les CROUS pour savoir si ce tarif pourra continuer à leur être proposé. Claudie Huizinger remporte le prix Femina. La romancière est récompensée pour son roman Un chien à ma table, édité par Grasset. Deux derniers grands prix littéraires d'automne restent à remettre, le Médicis ce mardi et l'Interallié mercredi. Fin de cette édition, vous êtes bien sûr Radio Orient. Radio Orient qui est désormais disponible à Caen en DAB+, la radio numérique terrestre. Ce nouveau lancement porte le nombre de zones couvertes par votre radio à 36 secteurs en DAB+, 11 sur la bande FM. Pour bénéficier de l'écoute des radios diffusé en DAB+, il suffit d'avoir un poste ou un autoradio équipé de cette technologie. Ils sont de plus en plus nombreux. À 19h et 23h, votre émission politique plurielle, Loïc Barrière, recevra Yannick Trigans, secrétaire national du Parti Socialiste en charge de l'éducation. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient et un très grand merci pour votre fidélité.